Bonsoir Marie-David.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous Marie-David, on vous reçoit en Sainte-Fernalée parce que vous avez coécrit avec Cédric Sauvia un livre qui a retenu notre attention qui s'appelle Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie. C'est paru aux éditions du Rocher dans la collection Idées. C'était déjà à l'automne dernier, mais on avait envie de conclure un peu en cette fin d'année cette réflexion que nous menons autour du regard, on va dire critique ou intellectuel sur cette question de l'intelligence artificielle. Et ce livre nous intéresse parce que vous Marie-David, comme c'est Cédric Sauvia, vous êtes ingénieur, vous n'êtes ni philosophe ni économiste, vous êtes diplômé de l'école polytechnique, vous aujourd'hui vous travaillez, vous dirigez des équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle dans le secteur de la finance, donc c'est votre métier, et vous coécrivez ce livre qui est un livre critique, parfois à certains égards pessimiste. Quel est le projet de ce livre, ce regard d'ingénieur, peut-être manquait-il en fait ?
Oui, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fossé de plus en plus grand entre les ingénieurs, d'une part, et les gens qui font des humanités, donc les philosophes, les écrivains, les historiens. Ce sont deux mondes qui ne se comprennent plus, alors que la technologie prend une place de plus en plus grande dans notre vie, modifie nos sociétés en profondeur et pose, comme on essaie de le montrer dans ce livre, des problèmes d'ordre anthropologique, sociétaux, politique. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs, alors moi je trouve qu'ils n'ont plus de formation en humanité, en général ils lisent assez peu, ils n'ont pas vraiment de formation philosophique, ils ont arrêté la philo en classe de terminale. Et en parallèle, les philosophes, finalement, sont aussi, alors passez-moi l'expression, un petit peu largués face à la technologie. Je pense qu'il y a assez peu de gens qui ont fait des études de philo, qui savent programmer, qui comprennent comment fonctionne un ordinateur. Moi, je suis frappée aussi par le manque de culture historique des ingénieurs. Il y a une discipline qui s'est complètement perdue, c'est l'histoire des sciences. Ils ont l'impression que la science, dans son état actuel, est née avec eux. Ils ne savent pas que leur discipline a une histoire et qu'en fait, comme le dit Thomas Kuhn dans son livre « Le paradigme », des révolutions scientifiques. En fait, à chaque révolution scientifique correspond une vision du monde, mais cette vision est chassée par une autre. Elle ne constitue pas une vérité absolue. Et donc, fort de ce principe, et moi, effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est mon métier, donc je suis confrontée au quotidien à l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. J'ai pensé qu'il était important d'expliquer d'abord ce que faisait et ne faisait pas l'intelligence artificielle, parce qu'on peut lire beaucoup de choses, parfois un peu fantaisistes, et de montrer quels sont les vrais problèmes qu'elle pose, qui ne sont pas toujours ceux qu'on lit justement dans les gros titres des journaux.
Oui, effectivement. Alors ici, comme on en parle beaucoup dans Softpower, on va revenir sur ce que fait ou ne fait pas l'intelligence artificielle, ou ce qu'est ou n'est pas l'intelligence artificielle, avec ce terme inventé par McCarthy dans les années 50, qui n'est pas nécessairement très juste. Mais vous venez de le dire, effectivement, vous rappelez en introduction que à la Renaissance et à certains moments de grands progrès technologiques, on avait ce qu'on appelait des honnêtes hommes, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une appréhension bien plus globale du monde et une culture à la fois scientifique, historique, etc. Et vous parlez de la philosophie des grands bons technologiques comme celui-ci. Dès l'introduction de ce livre, dans un chapitre qui s'appelle « Aux origines de l'intelligence artificielle », vous racontez que la philosophie implicite de l'intelligence artificielle telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est-à-dire en fait le deep learning, c'est la vérité calculée. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, il s'agit d'un paradigme qui consiste à, d'une part, qui repose sur une vision un petit peu matérialiste du cerveau, comme quoi le cerveau est un assemblage de neurones et que la pensée n'est qu'une série d'opérations électrochimiques faites par ces neurones. Donc, cette vision est très forte dans les milieux scientifiques aujourd'hui et conduit au fait à l'assimilation entre le cerveau et la machine et donc à la pensée et au calcul. Donc, on arrive à l'hypothèse qu'en fait, on pourrait répliquer la pensée par une série de calculs. Mais comme on le montre dans le livre, cette idée n'est pas récente, en fait, elle remonte, elle a toujours un petit peu existé en philosophie. Le courant logique en philosophie, par exemple avec Leibniz, a toujours voulu réduire la pensée à une série de propositions élémentaires. Donc Leibniz dit, ce serait comme les nombres premiers, avec les nombres premiers on peut composer toute la série des nombres, et peut-être qu'il existe une série de propositions élémentaires de la pensée qui, composées correctement, arriveraient à fournir tous les raisonnements possibles. Donc on voit que c'est un courant de la philosophie occidentale, mais qui au XXe siècle prend forme, avec d'une part l'arrivée des ordinateurs qui sont capables de faire des calculs de plus en plus complexes. Mais en plus des ordinateurs, il a fallu des gens qui ont pensé ce que pouvaient faire les ordinateurs. Donc le plus célèbre, c'est Alan Turing dans ses articles, qui a théorisé la machine de Turing. Donc Alan Turing ne parle pas d'intelligence artificielle, le terme n'existe pas quand il écrit ses articles. Néanmoins, pour moi, c'est vraiment le théoricien fondateur de l'intelligence artificielle, parce que dans son papier sur la machine de Turing, il décrit une machine complexe dont on ne peut pas prévoir le comportement. comportement et dont pourtant on a fixé les règles. Et il se dit, mais finalement, cette machine peut faire des choses tellement complexes que je ne sais pas si à un moment elle sera ou ne sera pas capable d'émuler la pensée humaine. Alors qu'au départ, elle ne fait effectivement que des opérations élémentaires assimilables à des calculs.
Alors effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce livre, vous battez en brèche, et avec vous, quasiment tous les gens qui écrivent sur l'intelligence artificielle. Non, l'intelligence artificielle, pour le moment, ne peut pas se conduire, égaler le cerveau humain dans le sens où elle n'est pas incarnée physiquement. Yann Lequin, le grand spécialiste de l'intelligence artificielle qui travaille aujourd'hui chez Facebook, le raconte d'ailleurs dans son livre. Néanmoins, vous dites qu'il existe tout de même un risque technologique avec l'intelligence artificielle. De quoi parlez-vous quand vous parlez de risque technologique?
Alors, il y en a plusieurs. C'est vrai que moi, je m'érige toujours en contre tous les discours de la Silicon Valley, comme celui d'Elon Musk, qui consiste à dire oui, l'intelligence artificielle va devenir forte. En revanche, c'est vrai que je pense que dans son état actuel, et Yann Lequin a raison de le dire, l'intelligence artificielle, elle n'est bonne que dans des tâches extrêmement spécialisées. Donc on est très très loin d'égaler la complexité et la versatilité de ce que peut faire le cerveau humain. Néanmoins, ça serait quand même très très prétentieux de pouvoir prédire ce que vont donner l'évolution des technologies dans 300 ans. Je pense que si on se met 300 ans plus tôt, est-ce qu'on aurait imaginé qu'on avait justement le smartphone, la reconnaissance faciale, des outils de traduction automatique? Donc, en termes de prudence, moi j'aime bien me référer au philosophe Hans Jonas qui parle de principe responsabilité. En fait, on ne sait pas aujourd'hui jusqu'où cette technologie peut aller. Donc effectivement, à 10, 50 ans, moi je pense qu'elle ne peut pas aller très loin, mais à 200, 300 ans, j'en sais rien. Et on peut tout à fait imaginer qu'effectivement, si cette technologie s'améliore beaucoup, ça peut poser des problèmes pour l'humanité. Et l'autre risque, il est plus insidieux, et lui, il est bien réel dans notre société aujourd'hui, c'est le risque causé par une utilisation croissante des algorithmes dans des domaines de plus en plus invasifs de nos vies tous les jours. Et là, ce risque est bien réel, puisque ça existe déjà.
Ouais, effectivement. Alors ça fait partie des choses que vous listez et que vous tentez de regarder avec un œil critique. D'une part, ce que vous appelez la honte prométhéenne, qui est un peu un concept qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tant d'impensés, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas assez cette question de l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il?
Alors la honte prométhéenne, c'est un mélange de honte et de fascination. Donc l'expression a été inventée par le philosophe Günther Anders, mais en fait elle est donc à plus de 60 ans, mais elle est toujours très valable aujourd'hui. Donc Günther Anders décrit le sentiment qui se saisit de l'homme quand il voit la perfection des machines qu'il a construites. Et Günther Anders parle des machines de l'ère industrielle. Donc là on pense tout de suite au travail à la chaîne, on pense tout de suite aux scènes des temps modernes où on voit que l'homme n'est pas adapté à la machine. La machine a une cadence parfaite, régulière, ne fait pas d'erreur, et l'homme est faillible, va avoir un moment d'inattention. Donc l'homme à la fois est capable de construire et de concevoir la machine, il en est le père, mais en même temps cette machine le dépasse. Et donc c'est là que Günther Anders décrit ce sentiment de honte prométhéenne. Donc avec l'intelligence artificielle, on a un petit peu le même phénomène, sauf que cette fois la machine se met en concurrence avec l'homme dans des domaines où elle n'a jamais été avant. Quand on parle des machines de l'ère industrielle, la machine est en concurrence avec l'homme dans le domaine de la fabrication des objets, de l'utilisation de la puissance... Alors qu'avec l'intelligence artificielle, la machine se met en concurrence avec l'homme dans le domaine cognitif. Or, l'intelligence étant le propre de l'homme, là, on atteint un niveau supérieur où c'est bien plus inquiétant pour nous, en fait.
Vous parlez surtout, et ça c'est très intéressant parce que vous êtes ingénieurs tous les deux, il y a un chapitre qui s'appelle « Violence de l'innovation ». Comment est-ce qu'aujourd'hui, et vous le vivez dans votre travail, comment est-ce que l'innovation ou l'intelligence artificielle est au cœur, disons, d'un phénomène économique qui, d'une certaine manière, empêche la prise en compte des enjeux éthiques?
Bah effectivement, je pense qu'on est dans une logique économique où il faut trouver des profits tout le temps dans un monde à ressources finies. Et donc aujourd'hui, les gains de productivité se font via l'innovation technologique. C'est la thèse d'un Jeremy Rifkin, par exemple. Et donc, les entreprises se sentent obligées de, comme elles disent, d'innover, de se disrupter en permanence. Ce qui, je pense, est extrêmement violent à la fois pour le système économique et pour les gens qui travaillent. Parce qu'en fait, ce qu'on dit aux gens dans ce système, c'est en fait, vous êtes obsolète. Tout ce que vous avez appris au prix d'une longue expertise sur votre domaine d'activité, il vaut rien parce que demain, il y aura Amazon, Alibaba. Et nous, on pense que c'est un leurre parce que la vraie innovation, d'abord, elle se fait sur un temps long. Il n'y a pas un Galilée ou un Newton tous les ans. Donc, c'est pas vrai que là, dans la Silicon Valley, il y a des Léonard de Vinci dans tous les garages. En fait, la vraie c'est une méconnaissance de la vraie innovation. Et en fait, nous, pour nous, c'est plutôt un phénomène de violence du capitalisme qui, en fait, quand on regarde ce que fait Uber, par exemple, l'innovation technologique, elle n'est pas incroyable. C'est simplement une mise en relation sur une plateforme de chauffeurs et de gens qui cherchent des taxis.
Par un algorithme qui est souvent trop travaillé, mais
qui n'est pas un saut technologique. Voilà. En revanche, ce que fait Uber, c'est tout simplement de déréguler le code du travail et de casser complètement concrètement les règles du code du travail et les règles de relations entre employeurs et employés. Donc on vit dans un mythe de « il faut innover, sinon on va être dépassé », mais en revanche, ce qui se passe, c'est ce dont on s'aperçoit, c'est simplement on revient à des logiques capitalistiques de réduction des coûts, diminution de la manœuvre, trouver des marchés plus grands de consommateurs.
Mais alors vous, en tant qu'ingénieur, et vous le dites, il y a une forme d'excitation quand même des ingénieurs dans cet écosystème, ou en tout cas en plus dans cette mise en valeur, cet engouement total pour l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'ingénieur le vit, et vous pensez que ça participe ou pas justement d'une fabrication d'un impensé?
Bah oui, je pense qu'il y a une exaltation, je pense, des ingénieurs aujourd'hui, parce que d'abord, il faut reconnaître que c'est un domaine passionnant. Enfin, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup l'informatique, j'aime beaucoup coder, j'aime beaucoup les ordinateurs, donc je trouve que c'est un domaine passionnant. Et c'est vrai, ce que j'observe chez les ingénieurs que je côtoie, c'est qu'ils sont en fait toujours un peu fascinés par ce qu'ils produisent et par ce qu'ils font dans leur discipline. En plus, ils ont un sentiment d'ivresse parce qu'ils font des choses que personne ne comprend, en fait. Personne ne comprend vraiment ce qu'ils font. Et ils sont toujours un peu subjugué par la difficulté du problème à résoudre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort chez les ingénieurs. L'ingénieur se fera toujours dépasser par la difficulté du problème technique à résoudre et par le fait qu'il faille y trouver une solution. Et ceci va prendre le pas sur la question de est-ce que ce que je fais est bien ou pas, est-ce que ce que je fais a des conséquences ou non. Et cette question, je pense qu'on leur apprend pas à se la poser dans les écoles d'ingénieurs. En tout cas, la société ne les incite pas à se poser.
Vous avez l'impression que la question de l'éthique, en tout cas l'endroit ou proposer des enjeux éthiques, ou des chartes éthiques, ou des contraintes éthiques, cette réflexion sur l'éthique de l'IA, elle peut venir d'où?
Non, moi je pense que ça doit être une question qui doit être débattue en société, qui doit être débattue en démo. Ça doit être une question importante pour la société, en fait. Et ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question de spécialistes. Et moi, voilà, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est vraiment que ces questions de pour ou contre certains progrès technologiques, ou enfin certaines évolutions technologiques, soient débattues dans la société, et effectivement qu'après, au sein de la société, bah, y a un débat. Il y a sûrement des gens qui diront il faut y aller, c'est génial, d'autres qui diront on fait rien, mais au moins que tout le monde ait l'impression qu'il puisse faire quelque chose. Moi j'ai l'impression que les gens aujourd'hui se sentent dépassés et sentent qu'ils n'ont aucun choix, en fait.
Marie David, je rappelle le titre de cet ouvrage que vous publiez avec Cédric Sauvien, ingénieur comme vous, ça s'appelle Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie. C'est une très bonne introduction, rappel et approfondissement de ces questions dont nous parlons souvent dans cette émission. C'était paru aux éditions du Rocher dans la collection Idée. Merci à vous.
Merci.